Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. À la une, l'appel de l'OMS aux États pour interdire la publicité et la promotion du tabac lors des expositions internationales. Nous reviendrons sur l'appui qu'apporte la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, au G5 Sahel. Au Burundi, la campagne de vaccination du personnel de santé contre Ebola à la frontière avec la RDC. Et puis en dossier, nous reviendrons avec la CITES qui protège la faune et la flore sur le braconnage des éléphants en Afrique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a exhorté aujourd'hui les gouvernements à interdire la publicité, la promotion et le parrainage du tabac lors de foires et de conférences internationales, comme le préconise la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Ce rappel intervient après que la multinationale du tabac, Philip Morris, a récemment annoncé un partenariat avec le gouvernement suisse pour parrainer le pavillon suisse à l'exposition universelle de Dubaï en 2020. Jérôme Bernard nous en dit plus.
L'annonce de Philip Morris n'a pas plu à l'Organisation mondiale de la santé et l'agence onusienne a tenu à le faire savoir. Le monde doit s'unir pour mettre fin à la commercialisation agressive de ces produits par l'industrie du tabac, source de dépendance, de souffrance et de millions de morts chaque année, a déclaré l'agence onusienne. L'OMS s'est félicité de la décision du gouvernement suisse de réexaminer ce partenariat avec Philip Morris et de ne pas accepter le soutien financier de la multinationale. L'agence onusienne a profité de cette occasion pour l'encourager à ratifier la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, la Suisse faisant partie des rares pays qui ne l'ont pas encore fait. L'OMS rappelle également que le mémorandum d'accord de 2011 avec le Bureau international des expositions, qui supervise les expositions universelles, interdit le parrainage d'expositions par les compagnies de tabac. Selon l'OMS, la présence d'un des principaux producteurs mondiaux de tabac va à l'encontre du thème de l'expo de Dubaï « Connecter les esprits, créer le futur ». Les gouvernements doivent activement aspirer à réduire le nombre de personnes qui commencent et continuent à fumer, à promouvoir la santé et à préserver les générations futures, conclut l'OMS.
Direction l'Afrique à présent avec la mise en œuvre de l'accord technique tripartite entre l'ONU, l'Union européenne et la force conjointe du G5 Sahel. Cet accord détermine les trois types d'appui que la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, apporte au G5 Sahel. Pour en savoir plus, on écoute Brahima Dia. Il est conseiller spécial du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Des propos recueillis par Tiemoko Sagara de Radio Mikado FM.
Le soutien comporte trois volets. Un, logistique. La MINUSMA fournit rations, carburant et assure les évacuations médicales et sanitaires. Le deuxième volet, c'est le soutien à la mise en œuvre de la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme et cadre de conformité au droit international humanitaire. Et le troisième volet du soutien consiste à appuyer la force conjointe à la mise en place d'une composante police, c'est-à-dire prévoter à l'intérieur des bataillons pour la judiciarisation et la mise en place d'unités spéciales d'investigation. Ce sont les trois volets du soutien de la MINUSMA. Pour le premier volet, la MINUSMA reçoit les demandes de la force conjointe et met à la disposition de la force conjointe. Pour ce qui est des droits de l'homme, un dispositif est en cours de mise en place, c'est-à-dire une assistance technique aux forces armées nationales des 5 pays dans la formation toutes les questions de droits de l'homme. Et sur le troisième volet, des missions d'évaluation ont été menées dans les 5 pays pour établir ce qui existe en matière de judiciarisation des actes terroristes.
Le ministère de la Santé du Burundi a lancé cette semaine une campagne de vaccination du personnel de santé contre Ebola au point d'entrée de Gatumba, à la frontière avec la République démocratique du Congo, où sévit l'épidémie d'Ebola. Pour mieux comprendre pourquoi le Burundi lançait cette campagne de vaccination, alors qu'à ce jour le pays n'a connu aucun cas d'Ebola, nous avons joint le docteur Walter Kazadi, il est représentant de l'OMS au Burundi.
C'est important de lancer la campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola, parce que justement, elle fait partie du dispositif de préparation à faire face à un éventuel cas au Burundi. Et comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, les pays font aller avec la RDC sur deux priorités 1, dont le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud. L'Organisation mondiale de la santé donc a recommandé que les personnels de soins qui sont dans les districts prioritaires pour cette surveillance soient vaccinés préventivement pour renforcer la préparation à faire face à un éventuel cas suspect. C'est une mesure additionnelle. Les autres mesures en cours, c'est d'abord la surveillance au niveau des points d'entrée, au niveau des frontières. Il y a la capacité de diagnostiquer les cas que nous avons, qu'on peut tester aujourd'hui au Burundi et dire que c'est pas Ebola. Nous avons installé la capacité de pouvoir référer des échantillons si jamais il s'agit avérés positifs pour des tests de confirmation dans les laboratoires spécialisés. En plus, nous avons pratiquement fini la construction d'un centre de traitement où on peut prendre en charge les cas si jamais on arrivait à en détecter. Et nous sommes en train de finaliser l'élément laboratoire de ce centre pour qu'on puisse tester sur place in situ.
Retour sur l'actualité, à l'avant-veille de la réunion à Genève de la conférence des États parties à la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, je vous propose de réécouter cette interview réalisée en mai sur le braconnage des éléphants en Afrique. Une pratique qui, déplorait le rapport de la CITES, continue de menacer la survie à long terme du pachyderme africain. Pour en savoir plus, Florence Westergaard avait joint Tom de Molenaire, chef des services scientifiques de la CITES.
C'est une étude dont les résultats ont été divulgués très récemment, mais ce sont les suites d'un programme de suivi des éléphants en Afrique il y a 15 ans. Et donc, ce programme suivi se met en place dans à peu près 70 sites en Afrique qui hébergent des éléphants. Et dans tous ces sites, systématiquement, les gardes forestiers, les gardes des parcs nationaux vont regarder les éléphants, nous informer sur les mortalités et surtout nous informer sur les éléphants qui ont été tués illégalement. Donc nous avons récolté ces informations depuis à peu près 15 ans. Et dans notre base de données, on a maintenant à peu près 20 000 cas d'éléphants qu'on peut évaluer, qu'on peut analyser. Et ces analyses sont faites annuellement et nous donnent des informations sur le taux d'abattage illicite dans ces sites. Et on peut extrapoler ces informations sur le continent africain. Ça nous donne donc des indices sur l'abattage illicite des éléphants en Afrique.
Donc ces abattages sont en augmentation?
En fait, ces abattages sont heureusement pour le moment stables et peut-être en déclin depuis 6-7 ans. Mais ils restent très élevés. Donc la natalité naturelle des éléphants ne peut pas compenser l'abattage illicite plus la mortalité naturelle des éléphants. Et nous sommes convaincus qu'en Afrique, pour le moment, le résultat, c'est que le nombre d'éléphants en Afrique est en train de diminuer. Et dans certains pays, c'est très visible. Donc ça, c'est des informations que nous, on apporte à nos 183 parties. Ensuite, eux, ils vont formuler des avis, des politiques pour améliorer le statut et la conservation des éléphants en Afrique.
Et sait-on les raisons pour ces abattages illégaux? Est-ce qu'il y a plusieurs raisons?
Oui, il y a plusieurs raisons, en fait. Et ça, c'est un autre aspect de cette étude qu'on fait. On essaie de comprendre, parce qu'il y a des différences en Afrique. Hein. Il y a des parties en Afrique où le braconnage est moins intensif. C'est quoi la cause? On essaie de comprendre et ensuite améliorer donc les situations pour les éléphants. Et bon, sur le plan local, ce qui va conditionner le taux de braconnage, c'est en fait la pauvreté des gens qui vivent autour des parcs, des zones qui hébergent les éléphants. Ces gens sont attirés par les gains potentiels et donc ils vont être impliqués dans le braconnage. Dans ce site, il y a plus de braconnage que dans des autres. Au niveau national, c'est la bonne gouvernance qui est un élément clé. Malheureusement, là où il y a beaucoup de corruption dans certains pays, l'abattage illicite sera plus important. Au niveau international, mondial, ce qui est très important, c'est le prix de l'ivoire. Parce que ça, c'est en fait qui va stimuler le braconnage en Afrique pour le moment. C'est donc le marché illicite d'ivoire qui existe notamment en Asie.
Et je lisais aussi dans l'étude que le fait que la population africaine augmente, donc il y a un manque de terres dans un sens. Est-ce que c'est aussi une des raisons?
À long terme, c'est clair qu'il n'y a plus d'espace pour les éléphants. Il y a de moins en moins d'espace. Et ce qu'on constate partout en Afrique, c'est que le conflit homme-éléphant est de plus en plus important. Et ça, c'est évidemment une menace pour laquelle il faut trouver des autres solutions que celles qui consistent à combattre le marché illicite d'ivoire. Actuellement, donc 2019, une des causes majeures, c'est quand même ce marché illicite d'ivoire qui continue à attirer en fait des braconniers et des trafiquants.
Vous parliez justement de politiques qui doivent être mises sur place. Donc est-ce qu'il y a déjà des politiques qui ont été mises sur place dans certains pays tout de même?
Absolument, oui. Donc, un des autres éléments qu'on constate qui va conditionner en fait la situation des parcs nationaux, c'est évidemment la bonne gestion, la bonne protection de ces parcs. De mieux qu'ils sont visités, de mieux qu'ils sont gérés, de mieux qu'ils sont protégés, de mieux que les éléphants et les autres, la l'agro-faune africaine va se porter. Donc ça, c'est déjà un élément de départ. Il faut mieux protéger, gérer ces parcs nationaux, les sites protégés ou qui ont encore des éléphants d'Afrique. Deuxièmement, il faut évidemment combattre le commerce illicite d'ivoire et essayer de fermer les marchés illicites pour l'ivoire en Asie. C'est aussi quelque chose sur lequel le 183 participants travaillent. Un autre élément, c'est donc éduquer les gens également. Donc essayer de trouver, comme je viens de vous dire, une des causes de la mortalité des éléphants, c'est donc la pauvreté des gens qui vivent avec les éléphants, qui se sentent menacés par les éléphants. Là, il faut trouver des politiques de développement compatibles avec grande faune africaine, les éléphants, et la population.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur Internet, mais aussi sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.